Merci beaucoup de votre accueil, merci pour votre gentillesse. On a la neige en plus, tout est vraiment bien organisé pour notre voyage, c'est incroyable. On a découvert un bon pays, des gens charmants, on a trouvé plusieurs belles églises dans le Québec. On a assisté à la réunion de prière ici, j'ai eu le privilège d'assister à une réunion du staff, au groupe de maison. On a été accueillis par plusieurs familles. Je veux remercier Monica et Joël, Charles et Sabrina, puis aussi Denis et Hélène. Je ne vous vois pas, mais je sais que Denis, tu es là. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est vraiment, on est très reconnaissant avec Anne-Sophie pour le privilège d'être avec vous. Et puis aussi, on voudrait vous remercier en tant que papa et maman et en tant que grands-parents pour l'accueil que vous avez adressé à Clément et Léa pour leur arrivée ici et puis pour la naissance de leur petite. Les circonstances de la naissance étaient particulièrement agitées et de savoir qu'ils étaient aimés, encouragés par une église comme la vôtre ça, et les frères et sœurs, ça nous a beaucoup rassurés. Et pour nous, on était très en paix dans tous ces moments-là. Voilà, j'aimerais vous lire quelques versets, introduire ce texte de Jonas. Si vous avez une Bible, vous pouvez chercher Jonas. Mais je voudrais qu'on parle ce matin du cœur de Jonas et de la transformation que Dieu va opérer dans son cœur. Jonas, c'est un prophète de l'Éternel. Si vous n'avez pas l'histoire du livre de Jonas, je voudrais la résumer rapidement. Jonas, c'est un prophète de l'Éternel. Dieu lui parle et lui dit d'aller à Ninive et de prêcher contre Ninive, parce que c'est une ville et un peuple méchant, c'est le peuple des Assyriens. Et Jonas, prophète de l'Éternel, va à Tarsis, à l'opposé. Il prend un bateau et il s'en va loin de la mission que Dieu lui a confiée. Alors Dieu envoie une tempête et branle le bateau pour se débarrasser de cette tempête. La solution, c'est de jeter Jonas par-dessus bord. C'est ce que font les marins, la tempête s'apaise. Jonas est avalé dans le ventre d'un grand poisson et puis 3 jours plus tard, il est rejeté sur la terre ferme. Dieu lui parle une nouvelle fois et lui dit « Va à Ninive !» Alors Jonas obéit finalement à Dieu, mais il va adresser une prédication bien plus courte que celle que je vais vous donner. Il va donner 4 mots. 40 jours, ça fait déjà 2 mots, Ninive détruite. C'est son seul message. Et en prêchant de la sorte, un message minimaliste, Jonas, ou l'Esprit de Dieu, devrais-je dire, a produit un bouleversement maximum dans toute la ville. Du plus grand jusqu'au plus petit, ou plutôt du plus petit jusqu'au plus grand, ils se sont tous repentis et se sont tournés vers Dieu. Jonas connaît ce que tout prédicateur de la parole de Dieu voudrait voir, c'est-à-dire une réponse immédiate, une réponse spirituelle, une réponse profonde de son auditoire à la parole prêchée. Et c'est ce que j'aimerais voir à présent. Juste, on va s'incliner dans la prière et puis Esther viendra nous faire la lecture de la parole. Seigneur mon Dieu, prépare nos cœurs pour entendre ta parole. Prépare nos cœurs pour comprendre ce que tu veux faire encore dans nos vies et glorifie, Seigneur, ton nom par Jésus-Christ. Amen.
Alors, on termine l'histoire de Jonas au chapitre 4, les versets 1 à 11 dans la nouvelle édition de Genève. Jonas 4, 1 à 11. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te reprend du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. »
Merci beaucoup, Esther. Imaginez la chose. La ville entière se repent. Jésus enseigne dans les évangiles qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et lui, le prédicateur, il est irrité. La Bible Semeur traduit « Jonas le prit très mal et se mit en colère ». On a envie de poser, je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de lui poser cette question théologique. What? Qu'est-ce qui te prend, Jonas? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Les gens se repentent. Et toi, tu es irrité. Et j'aimerais bien qu'on regarde tout d'abord la colère de Jonas. On verra ensuite l'amour de Dieu et puis ensuite notre réponse. Mais regardons la colère de Jonas. Ici, versets 2 et 3, il dit « Je le savais, j'en étais sûr qu'en m'envoyant à Ninive, c'était pour faire grâce à ce peuple. » Il connaît quand même son Dieu. Dieu veut nous avertir. « Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Oh, ça, c'est une accusation contre Dieu, n'est-ce pas? On aimerait bien être accusé de tout ça. Mais il va encore plus loin. Il dit, verset 3, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Ça, c'est une constante chez Jonas. Il veut toujours mourir. « Je ne peux pas vivre si les Ninivites vivent. Seigneur, c'est eux ou c'est moi ?» Voilà la pensée de Jonas. Dieu, dans toute sa bonté et sa patience, verset 4, répond « Fais-tu bien de t'irriter ?» J'aime cette question. « Fais-tu bien de t'irriter ?» Ce que Dieu veut ici, c'est qu'il veut inviter Jonas à interroger sa colère. La colère est notre réponse à tout ce qui menace quelque chose ou quelqu'un que nous aimons. Certaines de nos colères peuvent être justes, si l'objet de notre amour est juste. Par exemple, si on s'en prend à ma femme, à mes enfants, pire, à Agathe, ou encore à notre église, je vais me mettre en colère. Reste à savoir si je vais gérer correctement cette colère pour qu'elle ne produise pas, elle aussi, de nouvelles injustices, mais accomplisse la volonté de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui menace Jonas? S'il se met en colère et que la colère révèle une, une, une injustice. Qu'est-ce qui menace Jonas? La première chose qui est menacée par la grâce accordée à Ninive, c'est sa compréhension de la justice de Dieu. Il sait que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Comment peux-tu pardonner à un tel peuple? Si tu leur fais grâce, comment peux-tu demeurer juste? Vous savez, en France, c'est un très beau pays. En ce moment, on a quelques difficultés. On n'a plus de gouvernement, je crois. Mais on a un problème de justice. La justice de notre pays est profondément malade. La lenteur des procédures, l'inexécution des peines font qu'on peut raisonnablement s'attendre en France à ce que notre soif de justice ne soit pas satisfaite par les hommes. Mais la justice de Dieu, celle de Dieu, s'il n'y a pas de justice divine, si le jugement pour le péché ne frappe pas, alors que vaut Dieu? Comment Dieu peut-il faire grâce à Ninive? Ce peuple de Ninive était un peuple violent, belliqueux. Il est réputé pour sa barbarie. L'un de ses rois de Ninive a dépecé ses ennemis et a mis les peaux de ses ennemis sur les piliers de son palais. Le même a fait des pyramides de têtes humaines. Et toi, tu pardonnes à ces monstres? Parce qu'ils se sont revêtus d'un sac et qu'ils ont jeté de la cendre au-dessus de leur tête? Mais qui paie pour leurs crimes? Il y a une forme d'injustice aux yeux de Jonas. Aujourd'hui, on dirait, c'est trop facile. Peut-être vous connaissez des injustices dans votre vie et vous verriez d'un mauvais œil que Dieu fasse grâce à ceux qui vous ont maltraité ou malmené. Vous savez, Dieu peut pardonner à ces barbares qui se repentent et qui croient en lui, parce qu'il entrevoit déjà l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Oui, d'une certaine manière, tant que Christ n'était pas mort, leur péché était impuni. C'est ce que Paul écrit en Romains chapitre 3, verset 25. Il appelle ce temps le temps de sa patience. Ainsi, Jésus est mort pour justifier Dieu, qui avait laissé impuni les péchés commis auparavant. Le fait que Jésus-Christ, le seul juste, ait été crucifié, représente à jamais la plus grande injustice qui soit. Mais Dieu s'est ainsi offert pour porter toutes nos offenses, afin que nous puissions être pardonnés. Si c'est trop facile pour nous, ça ne l'a pas été pour Dieu. Si vous avez du mal avec la grâce pour des meurtriers, la grâce pour des grands pécheurs, alors regardez à la croix où le Fils de Dieu, le seul juste, a été sacrifié pour nous. La seconde chose qui est menacée par la grâce accordée à Ninive, c'est son monopole de la grâce. C'est-à-dire que Jonas, il est comme le représentant d'Israël ici. Il voulait la grâce de Dieu pour lui. Il fait partie du peuple élu, du peuple choisi. Il est le prophète de l'Éternel. Alors la miséricorde de Dieu, évidemment, elle est pour lui. Sa bonté est pour lui, pour son peuple. Mais si la grâce de Dieu est aussi pour ses ennemis, pour les ennemis d'Israël, alors à quoi bon être juif, le peuple élu? La réaction de Jonas dévoile le dysfonctionnement de notre cœur. Voyez-vous, nous prétendons croire à la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu envers ceux qui ne le méritent pas, ou plutôt qui méritent d'être punis. Et on est capable de se l'appliquer à nous-mêmes et de la refuser aux autres, sous prétexte qu'ils ne la méritent pas. Ça n'a fait aucun sens. La Bible dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Pour Jonas, c'est insupportable d'être logé à la même enseigne que les autres nations, que les autres pécheurs, que les Ninivites. La colère de Jonas révèle son égocentrisme. Voilà pourquoi Jonas est en colère. Il ne comprend pas Dieu, il ne comprend pas la grandeur de son amour, il ne comprend pas sa parfaite justice qui sont réconciliés en Jésus-Christ crucifié. Et il part bouder à l'est de la ville pour voir ce qui arriverait. Je suspecte Jonas d'être parti bouder et d'attendre quand même que Dieu change son point de vue et qu'il fasse tomber la foudre du ciel sur cette ville de Ninive. Est-ce qu'il y a des gens que vous jugez indignes de la grâce de Dieu? Est-ce qu'il y a des personnes pour lesquelles il ne vous vient même pas à l'idée de prier pour qu'elles soient sauvées? Il y a quelques années, quand on a déménagé dans notre nouveau local à Toulouse, quasiment au même moment, il y a eu un arrêté préfectoral ou municipal qui a écarté les prostituées de la ville, du centre-ville. Et elles ont commencé à faire le trottoir juste devant notre église. Oh, les gens ont commencé à venir me voir en me disant « Vincent, c'est sale maintenant, il y a des prostituées. Regarde pour nos enfants, quelle image on donne. » Et moi, j'étais en train de réfléchir, « Seigneur, tu nous as placés là. » Deux femmes de notre église sont venues me voir en me disant « Vincent, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces femmes. » Elles ont commencé à prier pour ça. Et puis, elles sont revenues me voir, elles m'ont dit « Vincent, qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis « Ben, sortez, allez les voir, allez les visiter, servez-leur un café. » Elles sont allées la nuit comme ça et elles ont offert un café. Elles ont commencé à parler à ces filles. Pendant ce temps-là, je me suis renseigné, j'ai trouvé quelqu'un qui avait un ministère auprès des prostituées. Je l'ai fait venir, il nous a enseigné, il a enseigné ce groupe de femmes qui commençait, il a parlé au conseil d'anciens de notre église, et puis ils sont sortis. Le samedi soir, ils sont sortis vers 23h jusqu'à 2h du matin. Le lendemain matin, au café à l'église, là, il y avait une de ces filles qui était là. C'était la dernière fois qu'elle faisait le trottoir. Elle est dans une église depuis, et ça remonte à une dizaine d'années. Depuis, une vingtaine de filles sont sorties de la rue. Plusieurs fréquentent nos cultes. L'une d'elles a été baptisée dans notre église. Elle est devenue membre. Quelles sont les personnes que vous regardez comme des parias, pour lesquelles vous ne priez même pas? Réfléchissez à ça. Ça dévoile notre cœur. Mais regardons l'amour de Dieu. C'est là que Dieu choisit d'exercer une nouvelle fois sa bonté envers son prophète. Et Dieu est lent à la colère et il est riche en bonté aussi pour son prophète. Au verset 6, Dieu fit croître un ricin pour faire de l'ombre et pour le délivrer de son irritation. Le ricin, c'est une plante qui pousse très rapidement, à peu près 30 cm par jour. Mais là, on voit bien que la croissance est plus rapide encore et révèle une intervention miraculeuse de Dieu. Ses feuilles sont très larges et du coup, elles procurent une ombre bienfaisante à notre homme en colère ici. Jonas éprouve, il dit, une grande joie à cause de ce ricin. comme moi, un petit peu quand le figuier de mon voisin pousse une branche de l'autre côté de son mur vers chez moi et qu'elle est chargée de fruits, là, c'est une bénédiction. Dieu montre ainsi sa compassion envers Jonas. Malgré son attitude, Dieu n'était pas tenu de faire pousser un ricin. Mais il l'a fait pour le bien de Jonas. Et Jonas ne reçoit pas ce qu'il mérite. Il ne reçoit pas ce qu'il mérite. Et puis au verset 7 et 8, le lendemain, Dieu fit venir un ver, puis un vent très chaud qui dessèche complètement le ricin. Un peu comme si mon voisin avait décidé d'abattre son figuier. Quelle serait ma réaction ? J'ai aucun droit là-dessus. Jonas, lui, il est au bout de sa vie. Je ne sais pas si c'est une expression québécoise, ça. Au bout de sa vie, il veut mourir encore. Il demande la mort. Dieu l'interroge à nouveau. « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Et alors là, sa réponse est pathétique. Il dit « Oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » C'est son propre intérêt, son propre confort que Jonas a en vue. Et il est toujours égocentré. Nos irritations, nos colères en disent long sur ce qui remplit nos cœurs. Nous devrions interroger nos colères. Elle révèle souvent nos idoles. Le plus souvent, notre idole, c'est nous-mêmes. Notre confort, nos projets, notre timing, nos envies, notre sécurité, notre désir de tout contrôler. Et voici la leçon divine, versets 10 et 11. Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » C'est un peu comme si Dieu disait à Jonas, « Enfin, Jonas, enfin !» Tu exprimes de la tristesse pour quelqu'un, pour quelque chose qui a péri. Mais dommage que ce soit pour une plante. Et non pas pour les 120 000 âmes, hommes, femmes, enfants, qui vivent à Ninive et qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Le verbe qu'il emploie ici pour périr, il l'a déjà employé, il l'emploie ici pour le ricin, mais il l'a déjà employé au chapitre 1 à deux reprises pour les marins qui allaient périr. Et puis au chapitre 3 pour les Ninivites qui périssaient. Dieu a employé ce mot pour des hommes. L'expression qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche désigne l'ignorance morale et spirituel des habitants de Ninive. Une génération qui grandit sans repère ne distingue plus le bien du mal. Le vrai du faux. Tout simplement parce qu'elle s'est affranchie de Dieu. L'ignorance de Dieu, si elle ne justifie pas leurs crimes, elle les explique en partie. Enlevez le Dieu créateur comme fondement de toute chose et vous ruinez l'identité humaine. Vous ruinez l'identité humaine qui a été faite homme ou femme à l'image de Dieu. Et quand on rejette Dieu, on ne sait plus si on est un homme ou une femme, et on a plus de dignité parce qu'on n'a pas été fait à l'image de Dieu. C'est notre image de Dieu qui fait que nous sommes dignes et que la vie doit être préservée. Si vous abandonnez Dieu, la famille va se disloquer, c'est sûr. La création ne sera pas soignée. Si vous enlevez Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui nous a donné le mandat de la création, la justice alors devient un concept complètement flou. Le bien, le mal, tout ça. S'il n'y a plus Dieu, il n'y a plus rien de tout cela. Ça perd toute consistance. La notion de péché est abstraite. Enlever Dieu, il n'y a plus de jugement. Ah, ben c'est pour ça qu'on enlève Dieu, on veut échapper au jugement. Mais si vous enlevez Dieu, il n'y a plus non plus de justice, ni d'espérance. Vous savez, il y a des peuples qui, dans leur ignorance du Dieu de la Bible, adorent d'autres divinités, craignent d'autres esprits, des peuples pour lesquels, par exemple, les jumeaux sont une malédiction et sont tués ou abandonnés, ou les filles sont une malédiction, ce qui pousse à des pratiques telles que l'excision, ou à l'esclavage sexuel, au meurtre. Il y a des peuples où les albinos sont assassinés pour que leurs restes entrent dans des compositions magiques qui vont être vendues par des sorciers à des prix exorbitants. Il y a des peuples, peut-être pas si loin de nous, où les animaux domestiques sont mieux traités que bon nombre d'êtres humains. Il y a des peuples où des foules vivent une vie de rêve sur Instagram et qui finissent par se suicider. Dieu a compassion du peuple qui l'a oublié, qui l'a évincé. Si jamais c'était votre cas aujourd'hui, si Dieu avait été mis de côté depuis longtemps, sachez que Dieu a compassion de vous. Il a compassion de vous parce qu'il sait que vous manquez le sens de la vie, la joie profonde de le connaître, l'assurance du pardon et l'espérance de vivre avec lui pour l'éternité. Oui, Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. La compassion de Jonas pour la plante explique la mention plutôt étrange. Vous avez remarqué à la fin du texte, il est dit « et des animaux en grand nombre ». Ça m'a souvent perturbé, cette expression. Pourquoi est-ce que Dieu parle des animaux en grand nombre dans Ninive ? Mais en fait, je crois que c'est parce que la question ici de Dieu est ironique. Si Jonas ne permet pas à Dieu d'avoir compassion de Ninive pour les 120 000 hommes et femmes et enfants que Dieu a créés et dont il se soucie, alors ne permettra-t-il pas à Dieu d'avoir compassion de Ninive pour les animaux, puisqu'après tout, Jonas était prêt à avoir compassion pour une plante. Le livre s'achève sur cette question laissée sans réponse, afin que justement les lecteurs puissent y répondre eux-mêmes. Et j'aimerais voir ce troisième point-là, notre réponse. Les premiers lecteurs, ce sont les Juifs nationalistes, dont Jonas est le représentant. Le peuple d'Israël, du temps de Jonas, ne voit pas les nations qui l'entourent comme des bénéficiaires potentiels de la grâce de Dieu. Et l'objet du livre de Jonas, c'est qu'Israël retrouve sa vocation première d'être une bénédiction pour les nations. Il faut mettre au crédit de Jonas que c'est le premier missionnaire en terre étrangère, même si c'est malgré lui qu'il est là-bas. Et le livre se referme sur cette question de l'Éternel. « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive ». Simplement pour provoquer une réponse de la nation d'Israël envers le monde sans Dieu. Malheureusement, 8 siècles plus tard, lorsque Jésus cite le récit de Jonas, c'est pour dire aux Juifs religieux de son époque qu'ils devraient se repentir de leur indifférence à l'égard des nations alentour. Ils sont encore dans le même travers. Les non-Juifs sont considérés comme des chiens à qui on ne parle pas, chez lesquels on ne met jamais les pieds. L'attitude de Jésus, elle, contraste terriblement avec celle de son peuple et de Jonas. Jésus, lui, il accueille et il offre le salut à une femme samaritaine. Vous vous souvenez de ce passage en Jean 4 ? Et il dit « il faut qu'il passe par la Samarie ». La Samarie est coincée entre la Galilée au nord, la Judée au sud. Les Juifs faisaient un détour pour ne pas passer par la Samarie, parce qu'après, il fallait nettoyer ses chaussures. Jésus, lui, il va là-bas et il rencontre cette femme samaritaine qui a 4, 5 maris, on ne sait plus trop bien. Mais Jésus lui parle et lui présente l'Évangile. Et cette femme, cette pauvre femme, isolée, rejetée par sa propre nation, se tourne vers Christ. Elle saisit le salut et elle va être ambassadrice de Christ dans son peuple. Et Jésus parle des champs qui blanchissent de la, pour la moisson. Les Samaritains qui vont se convertir à Jésus-Christ, qui étaient pourtant ignorés des Juifs. Jésus va parler à une femme syrophénicienne, complètement étrangère, celle qui voulait se rassasier des miettes, vous savez, de la table. Il va parler à un collecteur d'impôts détesté, à une femme adultère, à un centenier romain, à un pêcheur notoire, à un lépreux samaritain. Il les accumule. Tous ceux que le peuple juif ne voulait pas voir à Christ, à Dieu. À la fin de son ministère terrestre, Jésus annonce à ses disciples « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le but du livre de Jonas est de combattre de manière la plus énergique la tendance de son peuple à s'envisager comme le seul objet de la miséricorde de Dieu et d'abandonner le reste du monde aux horreurs du jugement. Au XVIIIe siècle, en Angleterre, William Carey, un jeune cordonnier passionné des sciences naturelles et des langues et de la parole de Dieu, devient instituteur de son village et en même temps qu'il est pressenti pour devenir pasteur de l'église baptiste locale. C'est à cette époque qu'il réalise sa fameuse carte du monde et il développe un énorme fardeau pour les âmes perdues. Dans le livre du révérend Andrew Fuller, intitulé « L'Évangile digne d'une pleine acceptation », il trouve écrit ceci. Écoutez cela et lisez avec moi. Si c'est le devoir de tous les hommes de croire quand l'Évangile leur est présenté, cela doit être que c'est le devoir de tous ceux qui reçoivent l'Évangile de faire tout pour le faire universellement connaître. Et ça scelle sa conviction sur le besoin et la responsabilité missionnaire de chaque chrétien. Et c'est dans ce contexte qu'en 1786, il a 25 ans, au cours d'une réunion de pasteurs, Carré soulève la question du devoir de tous les chrétiens de répandre l'Évangile à travers le monde. L'un des pasteurs lui aurait rétorqué alors, « Jeune homme, asseyez-vous. S'il plaît à Dieu de convertir des païens, il le fera sans votre aide ni la mienne. » Pouh ! Mais cette réponse ne le satisfait pas. 3 ans plus tard, il publie un manifeste intitulé « Enquête sur le devoir qu'ont les chrétiens de se donner les moyens de convertir les païens ». Un livre d'une centaine de pages qui décrit l'état de la population mondiale et le devoir pour les chrétiens d'évangéliser tous les peuples de la terre. Après des fondements doctrinaux, ce livre contient un rappel historique de l'activité missionnaire depuis l'Église primitive jusqu'à David Brenner et puis John Wesley. Puis des statistiques sur l'implantation des religions à travers le monde et enfin un appel à la constitution d'une société missionnaire baptiste. Il est l'un des premiers missionnaires de cette organisation qui verra le jour et il est envoyé en Inde. Il est appelé le père des missions modernes parce qu'après lui, beaucoup, beaucoup se sont engagés dans la mission. Vous savez, chaque génération de chrétiens est confrontée par le livre de Jonas à répondre à l'appel de Dieu pour évangéliser le monde. Aujourd'hui, il reste tellement de peuples non atteints, des peuples sans accès à l'Évangile. Le Québec, c'est comme la France. Ce ne sont pas des pays non atteints. Ce ne sont pas des pays sans accès à l'Évangile. Nous avons la parole dans notre langue. Nous avons des églises. Nous avons des gens qui sont formés, des pasteurs. Nous avons cette liberté d'afficher sur, sur nos sites la foi. Et si les Québécois ou si les Français ne viennent pas à Jésus-Christ, ça n'est pas parce que le peuple n'est pas atteint. C'est parce qu'ils ne veulent pas se tourner vers Christ. Mais il existe des peuples non atteints, des peuples qui n'ont pas encore saisi l'Évangile. Et pourquoi est-ce qu'ils sont encore non atteints? J'ai pensé à 5 raisons. Peut-être, il y en a certainement bien d'autres, mais voici celles auxquelles j'ai pensé. Premièrement, l'annonce de l'Évangile s'accompagne du renoncement à une vie confortable. C'est difficile à entendre, hein? L'annonce de l'Évangile s'accompagne toujours du renoncement à une vie confortable. Vous savez, chacun de nous a un ricin qui nous réjouit, dont on n'aimerait pas être privé. C'est parfois notre propre pays, notre propre famille, notre propre culture. C'est aussi notre confort. C'est notre sécurité, peut-être notre carrière professionnelle qui débute. Pas m'arrêter maintenant. Une renommée, le contrôle de notre vie. Deuxièmement, les églises se trouvent toujours de bonnes raisons pour ne pas s'engager dans cette œuvre ou le moins possible. Et voilà un peu les choses que l'on entend. On est encore une petite église, en fait. C'est beau, la mission, c'est vrai, c'est tellement beau. Mais on est une petite église, on ne peut pas soutenir. Et puis, en plus, notre pasteur, on ne le soutient pas complètement à 100%, alors on aimerait d'abord s'occuper de notre pasteur. Et puis aussi, on a un projet d'extension, ça c'est nous. Nous, on a un projet d'extension. Vous savez quoi? Si on ne met pas la mission dans l'ADN de l'Église, on ne fera jamais la mission. On ne fera jamais la mission. Nous connaissons aussi, troisièmement, une génération de Jonas. Jeunes hommes, jeunes femmes, qui ne veut pas répondre à l'appel de Dieu. En fait, ce n'est pas qu'il ne veut pas répondre à l'appel de Dieu, c'est qu'il ne prend pas le temps de considérer l'œuvre de Dieu. Vous avez des to-do list, vous? Moi, j'ai toujours ça, les to-do list. Est-ce que la mission, est-ce que réfléchir sur la mission, réfléchir sur le plan de Dieu pour ma vie, est-ce que c'est dans votre to-do list? Le pasteur avec lequel j'ai connu le Seigneur, un jour, il a réuni 2-3 jeunes gars et il nous a dit, voilà, venez voir, j'ai des choses importantes à vous dire. On s'assoit, il dit, il y a 3 décisions capitales que vous allez devoir prendre dans votre vie. 3. Il dit, la première, c'est qu'est-ce que tu vas faire de Jésus-Christ? C'est bon, vous avez répondu. C'est bon, vous en avez fait votre sauveur, votre Seigneur. Deuxième, qu'est-ce que vous allez faire pour Jésus-Christ? L'œuvre de Dieu, la mission, le pastorat, le service pour Dieu. Il faut être convaincu que Dieu ne m'appelle pas ou que j'ai ma place est ici dans cette église et servant de tout mon cœur, portant les ouvriers dans mes prières, évangéliser mes voisins, soutenant par mes finances la mission. La troisième chose, avec qui vous allez faire votre mission? Les 3 grandes questions. Il a dit, ces questions-là, vous allez y répondre entre 20 et 25 ans. Réfléchissez à ces choses-là. Quatrièmement, une prière qui est peut-être trop peu priée, celle qui dit « Envoie des ouvriers dans la moisson ». Vous savez, on n'est pas toujours sûr que nos prières sont bien formulées d'une manière qui plaise à Dieu et que, de sorte qu'elle puisse être exaucée. Mais celle-là, c'est Jésus lui-même qui l'a formulée et qui nous a demandé, qui nous a ordonné de la prier. Oh, que cette prière soit notre prière, première prière. Ô Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. Et la cinquième raison, peut-être la principale, c'est que nous comprenons si mal l'amour de Dieu pour ce monde, sa compassion pour ceux qui sont dans la détresse, sa volonté de faire grâce à ceux qui méritent d'être punis, sa patience pour ceux qui persistent dans le péché. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jonas n'avait pas la connaissance de Christ, de la croix, comme nous l'avons pour contempler l'amour de Dieu. Alors comment voyez-vous la ville de Longueuil ? 120 000 âmes ? À peu près ? Qui ne savent pas discerner leur droite de leur gauche ? À Toulouse, il y a 1 million d'âmes dans l'agglomération et des gens qui périssent. Ce matin, il y avait à peu près 4 500 chrétiens dans les églises. Dieu dit, je cherche un homme. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Jésus est celui qui s'est tenu devant Dieu en faveur du pays et du monde. Et nous pouvons, nous aussi encore, aujourd'hui, annoncer son œuvre de salut. Au début de ma vie chrétienne, j'ai lu un livre qui a planté dans mon cœur un intérêt pour la mission. Et pour ma première fois au Canada, je suis content de pouvoir citer ce livre, puisque c'est celui d'un Canadien, « La passion des âmes » du pasteur Oswald Smith, de l'Église des Nations à Toronto. La première fois qu'il a prêché dans cette église, le trésorier est venu le voir en lui disant « En fait, on a des dettes par-dessus la tête. Il n'y a plus rien dans la caisse. » L'air de dire « Faites pas de dépenses et même si vous pouviez faire un chèque, ça serait super. » Il n'a rien répondu. Il est monté en chair et il a prêché les nations, les missions. Il a prêché la mission. Le soir, il a prêché la mission et il a invité le soir à des réunions toute la semaine, du lundi jusqu'au dimanche, sur la mission. Vous savez quoi ? Il n'a plus jamais, l'Église des Nations n'a plus jamais connu les affres du mot « dette ». Ils ont porté jusqu'à 300 missionnaires dans le monde. L'Église s'est remplie, l'Église s'est affermie. Mais j'aimerais terminer avec cette dernière pensée. Si Jonas est bien l'auteur du livre de Jonas, ce que la plupart des commentateurs reconnaissent, parce qu'au verset 1, Jonas dit « Parole de l'Éternel, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, et c'est de cette manière que les prophètes Osée, Joël, Michée, Sophonie, Zacharie ont signé leur livre également. De plus, qui pourrait écrire en détail une prière que l'on trouve au chapitre 2 que Jonas a fait tout seul dans le ventre d'un poisson ? Mais surtout, qui aurait pu mentionner un prophète en le nommant Jonas et décrire avec une telle force l'endurcissement de son cœur, l'insolence de sa désobéissance, son indifférence envers les nations ? L'immaturité de son cœur, sinon le prophète lui-même. Ce livre, vous le comprenez, il est satirique. Et c'est cela qui nous trouble. À la fois Jonas, il est détestable, et à la fois, il nous plaît. Il est détestable parce qu'il a horreur des nations, et il nous plaît parce qu'il nous ressemble. Ce livre est satirique. parce que Jonas décrit son propre cœur, ses propres sentiments. Maintenant, si Jonas est bien l'auteur de ce livre, c'est donc qu'il s'est repenti. Et il termine sans donner de réponse à l'interpellation divine pour laisser Israël répondre, pour nous laisser répondre. J'ai lu qu'en 2014, l'État islamique a détruit à Mossoul, en Irak. Mossoul, c'est Ninive. L'État islamique a détruit une mosquée du nom de Nabi Younous, prophète Jonas, construite sur le site d'une église assyrienne qui renferme le tombeau de Jonas. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ce qui laisse penser que Jonas est mort à Ninive. S'il est mort à Ninive, c'est qu'il est resté à Ninive et qu'il a annoncé le Dieu d'Israël à Ninive. Ça veut dire qu'il a prêché le Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Jonas a finalement vu la glorieuse grâce de Dieu qui s'étend à tous ceux qui se repentent et qui croient. C'est lui qui a changé son point de vue sur Ninive et sur la mission. C'est aussi ce qui peut changer le nôtre. Gloire à Dieu pour sa grâce merveilleuse. J'aimerais qu'on termine avec un chant. Je vais inviter nos musiciens à nous rejoindre ici sur l'estrade. Un chant qui célèbre la gloire de Dieu, un chant qui dit... C'est une prière qui dit « Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. » Juste un mot de prière pour conclure. Seigneur notre Dieu, nous te demandons, Seigneur, pardon pour notre cœur si dur, notre cœur de Jonas, notre cœur rebelle qui n'est pas porté vers la mission, qui n'aime pas la grâce pour les autres. Seigneur, change nos cœurs, transforme nos cœurs. Aide-nous à saisir les vérités de ta parole et à proclamer l'évangile. Seigneur, lève une armée d'ouvriers pour partir pour la mission. Bénis cette église ici, Espoir, qu'elle soit un espoir pour les nations, un espoir pour ceux qui sont encore perdus. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Par Jésus-Christ. Amen.